Vous allez écouter le message de Paul Robert Chanson donné lors du week-end d'église à La Moura en avril 2013. Cet enregistrement a été réalisé avec une simple tablette iPad. Veuillez accepter la faiblesse du moyen d'enregistrement et les bruits parasites inévitables. Ce message persuasif mérite de passer par-dessus ses imperfections. Vous aurez l'avantage de vous trouver immergé parmi les auditeurs comme si vous y étiez. Merci pour votre compréhension.
Alors on va passer maintenant au message préparé par Paul Robert. Avant, je vais lire le passage qui correspondra au message. C'est dans Marc 16, versets 9 à 20. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Et là-bas, on portait la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Amen. Amen. Ce texte de l'évangile de Marc, c'est ce qu'on appelle la version longue de la fin qui a été rajoutée. Il y a une version courte, beaucoup plus courte. Il y en a qui n'ont rien du tout, qui s'arrêtent au verset d'avant. Mais depuis quelques siècles, nos pères, dans la foi, ont décidé que ce texte ferait partie de notre évangile. Et je le prends comme tel, comme parole de Dieu aujourd'hui pour nous, même si ce n'est pas Marc qui l'a écrit. Et en fait, ce texte, l'évangile de Marc, c'est un cadeau, on l'a vu, qui nous a été donné. C'est une grâce qui nous est faite. On peut le comprendre, on voit l'évangile, on voit le royaume, tout ça, un peu différemment. On l'a vu pour ceux qui ont partagé dans la salle à côté hier. Et en fait, c'est comme si ce cadeau, ce dernier texte, c'est le nœud sur le paquet. Jésus ressuscité désire mettre en marche ses disciples et nous mettre en marche. Fort de l'enseignement de cet évangile, l'enseignement qui passe au travers des miracles, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a été, c'est l'envoi. Pour nous, Église évangélique de Mérin, aujourd'hui ici dans la neige, la devise qui pouvait orner le fond de notre salle, de salle de culte, ça serait rejoindre Mérin ensemble. Cette devise, ce mot d'ordre, nous a été donné lors du culte d'inauguration en 2005, dans le message d'Harry Meyer. Le titre de ce message, c'était « Joindre et rejoindre pour une solidarité au nom du Christ ». Harry m'a dit qu'il ne se rappelait plus. Il est voir, il est là. Alors je vais demander si vous voulez, il m'a dit que non. Je vais reciter un tout petit bout de son message. C'est un petit bout. Dans la petite plaquette ici, qui est magnifique d'ailleurs, à part qu'il marque tout, il manque tout le samedi, on dirait qu'il n'a pas existé. Mais à part ça, il y a le message complet, et ça, il dit, l'aventure qui nous attend, il parle d'aventure qui nous attend, et celle-ci, donc à l'inauguration, joindre nos efforts dans un même amour du Christ. C'est là l'image de tous ces maillons qui sont joints les uns aux autres. Il y a une photo, il y avait une sorte de fenêtre qui était posée au fond, puis depuis la croix partaient des maillons comme une chaîne, et la fenêtre était ouverte. Hein. Et ça passait par la fenêtre. C'était... Tu te rappelles de ça?
Oui. Bon.
C'est là l'image de tous ces maillons qui sont joints les uns aux autres. Et s'il faut joindre nos efforts, c'est pour ensemble rejoindre, et ça c'est marqué en gras, ceux qui sont dans le besoin tout autour de nous. L'aventure qui nous attend est de rejoindre notre prochain, quel qu'il soit, pour le joindre, le connecter à Dieu, la source de vie, ainsi qu'aux hommes de bonne volonté, tout du moins. Joindre et rejoindre dans un mouvement, dans une chaîne de solidarité qui nous entraîne hors de nos murs et par-delà nos barrières. Nous sommes bien dans ce nouveau bâtiment, mais nous ne voulons pas nous y enfermer. Nous voulons garder portes et fenêtres ouvertes sur le monde. C'est la raison même de la fête de ce week-end. Joindre et rejoindre dans cette dynamique créée par l'esprit de Pentecôte, c'est très important, c'est pour ça que je lis jusque-là, et qui nous fait entrer dans la grande chaîne des témoins de l'Évangile. Amen. J'ai bien respiré. Amen. Et merci. Et puis, cette devise de rejoindre nous est aussi apporté par le conseil, le conseil de notre communauté, le conseil des anciens, au travers de l'image de l'arbre. Vous rappelez cette image de l'arbre, avec ses branches qui s'étendent dans plusieurs directions, mais avec un but, que ce soit l'une ou l'autre de ces branches, même s'il y en a une qui est plus porteuse dans le sens de la mission, c'est de réaliser ce projet de rejoindre. Et puis, cette devise nous a été rappelée il n'y a pas longtemps, en 2010, le 12 décembre 2010, je vous rappelle tout à coup ce message, au sujet des devises, comme celle de Genève, on en a une, c'est Post Tenebras Lux. Hein. En Suisse, c'est tous pour un, pour tous, tous pour moi, je ne sais plus. Et on en a une de devise, et c'était notre ami Philippe Cornu qui a lu et qui a rappelé cette devise pour nous, Mérins, rejoindre Mérins ensemble. Alors je vous lis aussi un extrait. Dans le cadre de l'Église évangélique, nous avons une devise, elle est très belle, rejoindre Mérins ensemble. Qu'est-ce que cela implique? Intuitivement, il est très facile de savoir ce que ça veut. Rejoindre quelqu'un, c'est mettre ses godasses, non, il n'a pas dit comme ça, mettre ses vêtements, ses chaussures et aller partir, aller voir des gens. Mais à part cette observance littérale et géographique, il y a l'esprit de cette devise. Là, c'est plus moi qui parle, hein, c'est Philippe Cornu. On ne veut pas seulement aller boire le café avec des gens. On aimerait aussi leur dire qu'il y a une espérance attachée au nom de Jésus. On aimerait qu'ils soient conscients et qu'ils puissent croire, non pour nous faire plaisir, mais pour être sauvés. C'est simple. Mais pourquoi avons-nous de la peine à le faire? N'y a-t-il pas en nous deux courants contradictoires? D'une part, notre volonté de rejoindre Mérins ensemble pour y exercer notre vocation de réconcilier le monde avec Dieu, et d'autre part, un frein qui nous retient de le faire. Contre quoi faut-il lutter? L'ennemi est-il interne ou externe à nous-mêmes? C'est une question qui pose. Tout ceci pour nous rappeler que Dieu, par Jésus-Christ, nous exhorte encore et encore et encore à l'annonce de l'Évangile. De là, cette pièce, jouée bientôt par toute une équipe de notre Église, marque l'expérience, on en a parlé, je crois qu'on le sait maintenant, en début mai 2013. Et c'est là qu'il faudra être présent. Sommes-nous conscients de cet ordre du Seigneur d'aller pour nous-mêmes et pour notre Église? Rappelez ces dernières années, je viens d'en dire, est-ce que nous sommes obéissants à l'ordre du Seigneur? Et sommes-nous solidaires dans cette chaîne, ensemble, de cette équipe de comédiens qui jouent à cet évangile quelque part sur la place publique, qui s'engagent, qui sont porteurs de quelque chose? Comme le dit si bien Philippe Cornu, être témoin, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a deux courants contradictoires qui s'affrontent en nous-mêmes. Et en Église, je dirais aussi. D'une part, notre volonté de rejoindre l'autre dans cette vocation de réconcilier le monde avec Dieu. D'autre part, il y a une sorte de frein qui nous retient. Un frein qui nous rend timides dans l'annonce de cet évangile, dans le vécu de cet évangile. Alors j'aimerais avec vous souligner quelques mots de ce mot croisé et relever quelques croisements de ces termes dignes de notre intérêt, afin de nous encourager dans ce rejoindre Mérins ensemble. Alors, dans ce mot croisé, nous voyons le premier mot que j'avais mis, enfin, bien partir de quelque chose, transmettre. Et si vous voyez transmettre, il se croise avec baptiser, on y reviendra après, avec témoin et avec évangile. Transmettre quoi? Ben, l'évangile. Accompagné peut-être de beaucoup de choses, des petits cafés, des croissants, des frites, tout ce qu'on veut, mais c'est l'évangile qu'on veut transmettre. Cette proposition de réconciliation avec Dieu, qui permet le salut de chacun pour être sauvé. Je ne veux pas vous expliquer ce que c'est que le salut, le péché, etc. On n'a pas le temps ce matin. Ce salut face à la mort, cette séparation définitive d'avec Dieu, et ceci pour l'éternité. Y croyons-nous à cela?
Oui.
Cette séparation? Cela nous pousse-t-il quand même un petit peu en avant? Et puis, il se croise avec témoin. Témoin. Vous serez mes témoins. Nous sommes appelés à être témoins. Tous ceux qui avons fait allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Soit dans notre vie de tous les jours, de différentes manières, dans nos activités diverses, soit dans notre service, notre ministère particulier auquel Dieu peut nous appeler. Il a appelé des jeunes et moins jeunes, à faire cette pièce, à dire l'évangile. Il n'y a pas de transmission possible de l'évangile sans témoin. Et Jésus-Christ nous fait l'honneur d'avoir besoin de nous. Il ne transmet pas par lui-même, entre guillemets. Hein. Mais il a besoin d'être nous. Bien sûr, c'est lui qui fait pousser, hein, qui fait croître. Il nous fait l'honneur d'être ouvriers avec lui dans son champ. Témoin et évangile se croisent. Témoin et évangile se croisent avec enseigner. Et puis un petit peu plus bas, enseigner, témoin, évangile se croise avec dire. Que j'ai marqué encore. Et puis, si on va un peu plus loin, parce que dire, enseigner, c'est apporter et être. Bon, je joue un peu, hein. Mais enseigner, dire, être et apporter. Au psaume 16, le 12, verset 6, j'apporte le salut, dit le psalmiste, à ceux contre qui l'on souffle. Le salut pour ceux qui luttent contre des vents contraires. Sous ce terme de vent, on peut mettre tout ce que l'on pense, toutes les difficultés diverses dans la vie d'un homme ou d'une femme aujourd'hui. Combien autour de nous sont dans l'angoisse, par exemple, en recherche de la vérité, d'une vérité, d'un sens pour leur vie. Quel est notre témoignage de salut? Qu'apportons-nous? Le Christ nous a dit dans l'Évangile qu'il fut ému de compassion pour cette foule semblable à des brebis sans berger. Apporter l'Évangile, c'est enseigner. C'est le dire. Et c'est être. Alors souvent, on dit, ah, mais il faut être. Oui, mais c'est les deux en même temps. Le dire et l'être. Le dire, pour que les gens comprennent, ils n'entendent pas. Mais être, c'est vrai, partout où nous sommes, peut-être sans dire, mais être ce parfum de cette bonne odeur du Christ. Ça fait référence à des textes du Nouveau Testament, je vous laisserai les rechercher. Enseigner. Enseigner croise avec envoyer. Envoie, bien sûr. Partager. Partager, là. Envoyer, partager, enseigner. Et puis partager se croise avec donner. Vous voyez, il y a une suite. Je n'ai pas vraiment voulu ça. Hein. Quand j'ai fait, tout à coup, j'ai trouvé ces croisements. Envoyer dans le monde. C'est ce que l'on lit dans Marc 16, verset 15. Je vous envoie aller dans le monde entier. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, ma foi, je prends un peu un autre évangile aussi, Jésus exprime une prière dite sacerdotale. Et il dit ceci, or, au verset 3, il dit à son Père, parce qu'il prie son Père pour ses disciples, et puis il prie aussi pour nous, hein. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront par leur parole ou leur témoignage. Il nous dit ceci, or, la vie éternelle, dit-il à son Père, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé, premièrement, c'est Jésus-Christ. Et lui, à son tour, il nous envoie, comme lui a été envoyé, il nous envoie, pour être porteur de cette bonne nouvelle. Verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Et Christ prie son Père, son lit cette prière, relisez-la, hein, dans Jean chapitre 17. Hein. Et il prie son Père au verset 15 de nous garder du mal. De nous garder du mal. Mais par deux ou trois fois, c'est marrant, le mal, il n'y a qu'une fois dans cette prière. Mais par deux ou trois fois, quatre fois, 11, 21, 22, 23, c'est les versets, de nous garder dans l'unité. Qu'il soit parfaitement un, Jésus-Christ. Comme toi et moi, nous sommes un. Alors, au verset 6 à 8, je vais vous les lire, ça, je suis obligé de vous les lire, verset 6 à 8. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi et j'ai cru que c'est toi qui m'as envoyé. Donner, vous avez remarqué, hein, le verbe donner, mais il a plusieurs sens. Hein. Il n'est pas toujours dans le même. Parce que c'est vrai que Dieu a donné Jésus-Christ au monde. Il a envoyé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Et puis, quand on lit, il dit, ce que tu m'as donné, il dit au Père, nous sommes donnés ensemble dans cette unité de l'Évangile au Christ, à Dieu le Père. Et Jésus-Christ, il nous a donné les paroles de vie. Ces paroles qui nous font croire, qui sont à l'origine de notre foi. Dieu a donné. Alors là, le terme donné. Alors, nous avons été donnés à Jésus-Christ, qui nous a donné les paroles. Cette unité dans notre diversité, combien nous sommes amérins, divers et différents. Combien elle est importante. Et cette unité dans cette diversité, c'est souvent là que le bât blesse. Et c'est souvent là qu'il y a le frein à l'Évangile. Voyons comme il s'aime. Hein, la parole aussi. Voyez comme il s'aime. Alors repassons dans nos cœurs, ou peut-être confessons-nous les uns aux autres aussi, l'histoire de l'Église. Je parle de notre Église. Ou l'histoire de l'Église en général, ça c'est vrai aussi. Et notre propre histoire. Tirons-en les conséquences et humilions-nous devant Dieu. Ensemble. Des fois ce chant m'énerve un peu. Hein. Nous nous humilions, je ne sais plus comment il va, là, il y a ce chant. Mais en fait, il y a quelque chose de beau et de vrai là. Humilions-nous devant Dieu ensemble et il nous gardera dans sa force. Dans sa force. Cette force indispensable, cette force de Dieu indispensable dans toutes nos faiblesses. Dans toutes nos contradictions. Car en Matthieu 10, verset 16, Jésus nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit gardé du malin. Et qu'il nous prie, il faut qu'on garde l'unité et qu'on soit gardé du malin. Parce que c'est parfois dur d'être témoin. Alors les loups, ce n'est pas nécessairement toujours. Il y a des frères, des frères, des sœurs qui vivent la persécution, les persécutions physiques, la prison, les séparations de famille, etc., etc. On en entend parler, lisez le journal Porte Ouverte, je crois que c'est. D'ailleurs, quand on a fini ce journal, déjà, c'est pas le moral en général. Mais c'est parfois dur d'être témoin. Chez nous, c'est peut-être. Hein? C'est plus qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Oui, c'est parfois dur d'être témoin. Et témoin, vous voyez là, ici, se croise avec tenir. Alors là, c'est facile, je l'ai rajouté. Tenir dans le sens tenir ferme. Se tenir debout. Avoir de la ténacité. Ou la ténacité pour l'Évangile, la persévérance dans la durée, dans les épreuves, persévérance aussi, et tenir aussi dans les bons moments. Parce que c'est peut-être là qu'on peut avoir le plus de relâchement. Ah ouais. Ténacité. Quand j'enseigne à mes élèves, au sujet des outils, vous savez, on a des machines qui tombent très vite en manuscrit, on peut faire facilement tous ses doigts, je les ai encore, grâce à Dieu. Et il y a des outils qui tournent. Je pense notamment aux fraises ou aux couronnes dites de toupie. On fait des battues, des moulures, etc. Ça coupe. Et ça tourne vite, hein, 6000 tours minimum. Et alors, je parle de la ténacité des outils. Alors, pour qu'ils soient, quand ils tournent à grande vitesse, je leur parle de l'acier, du fer qui compose ces outils. Mais dans cette composition de l'acier, pour augmenter la dureté de l'outil, la coupe, la souplesse, la résistance à l'échauffement, la ténacité de la coupe. On introduit dans l'acier, dans le fer, alors bien sûr pas avec une seringue comme ça dans la couronne, mais quand on fait le mélange, des alliages. Alors, tous les métallurgistes se rendent compte qu'il y a des alliages. Hein. Des alliages d'autres matières, en fait, comme le chrome, le vanadium, hein, de l'acier CV. Vous connaissez. Après, il y a des aciers dits rapides, dans lesquels on a mis du molybdène, du tungstène, etc. X, je ne suis pas métallurgiste. Donc, pour améliorer la qualité, la dureté, la coupe de ces outils. Pour qu'ils puissent être bons pour le travail à fournir. Un de ces alliages avait pour but d'améliorer notamment la ténacité à la coupe. Vous savez, le couteau, quand il passe souvent, il s'émousse. Hein? Et alors, il faut lui augmenter que cette petite pointe tranchante, elle vienne le coup. Pendant pas juste quelques mètres de bois, surtout quand le bois est dur, mais voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit cours tout à l'heure. La ténacité dans le temps, dans la durée, quand je travaille avec l'outil. Bien sûr, il y a toutes après les vitesses de coupe, les vitesses d'avance, etc., qui sont très importantes au sein. Mais quand même augmenter la ténacité de la coupe de l'outil. Pour tenir, nous avons besoin d'alliages dans nos vies. Et dans ces alliages, on pourrait en citer quelques-uns qui sont venus à l'esprit comme ça. Par exemple, un des alliages importants, c'est la communion avec Dieu. Comment ? Moi, j'en connais deux, trois peut-être. Il y a quand même la lecture de la parole, la prière personnelle et en église, bien sûr. Donc, les deux choses peuvent se faire. Et puis, les moments de méditation, où on réfléchit, où on pense, on raisonne. Pas trop. Donc voilà, ça c'est un des alliages qu'il nous faut dans notre vie, pour tenir dans la durée, qui n'en tient pas. Un autre, c'est cette communion avec les autres, cette unité. Dans tous nos rassemblements, qu'ils soient le culte, que ce soit la prière, on en a un de temps en temps tous les mois, mais pas très 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 nombreux, on aimerait bien que ça se renouvelle. Tenir aussi dans l'étude de la Bible et de la parole, comme on l'a fait hier. Voilà un autre alliage qu'il nous faut pour tenir en Église. Et puis, il nous est dit aussi dans Éphésiens que pour tenir ferme contre les manœuvres du diable, il nous faut nous équiper, revêtir les armes. Ça serait aussi des alliages qu'on pourrait prendre là, pour tenir. Hein. Alors, on va les citer, mais je ne vais pas les expliquer tous parce qu'on n'aurait pas le temps. La cuirasse qui est dans la foi. Est-ce que nous y croyons ? Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Il faut un bon bouclier. Le casque du salut. À nos pieds, les chaussures du zèle. Ça, j'aime bien. Hein. Le zèle. Hein. On va y aller. La ceinture de la vérité. Soyons pas trop avec des contradictions. Et puis, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est aussi quelques-uns des alliages qu'on pourrait rajouter dans notre vie. Comme on le rajoute dans l'outil pour tenir, pour que notre coupe soit bonne. Et puis, le dernier alliage, qui est important, sans celui-là, il n'y a rien qui prend, c'est le Saint-Esprit qui illumine nos vies, qui nous révèle en nous, et pour les autres aussi, la présence de notre Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire. Nous sommes comme sans force. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit. Excusez-moi. Tenir. Tenir ferme. Parfois lutter. C'est pas facile de témoigner devant tous les copains. Et je l'ai vécu. Pour cet évangile. Persévérons. Soyons de bons outils, avec des bons alliages, dans la main du meilleur des charpentiers et menuisiers, qui est Jésus-Christ, afin qu'il soit baptisé, qu'il croit, pardon, et qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Là, il y a un mot que je n'ai pas cité, c'est lequel ?
Si.
Si. Bon, j'avais déjà dit ça une fois dans Excel, cette formule d'ordinateur, c'est il y a la fonction si. Si, il y a ça, automatiquement, bon, faut, hein, on peut avoir un résultat quelque chose. Si. On pourrait en dire hein, plusieurs, par exemple, s'il y a une bonne nouvelle à partager. Vous pouvez en rajouter ? Si nous avons la foi, si nous sommes obéissants, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Anne.
Si nous aimons les uns les autres
et ceux qui sont autour de nous. Si quoi ?
Si
on connaît le don de Dieu.
Si vous persévérez,
ah, ça c'est déjà la conséquence. Hein. Mais si, par exemple, si vous avez la foi, je l'ai marqué. Si nous croyons que le monde se perd sans Dieu. Si nous croyons que le monde se perd sans Dieu. Et si nous croyons cela. Si Jésus-Christ, si l'amour de Jésus-Christ nous mobilise. Si nous sommes obéissants à cette parole d'envoi de Jésus-Christ, si tout cela est bien vrai, alors, rejoignons ensemble Mérin et le monde entier. Amen.
Amen. Amen.